Europe 1.
Heures sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre consacré à ces personnages de l'histoire que la prison a inspiré. Plus qu'une émission aujourd'hui, une préparation pour Stéphane Bern. Qui le sait, le jour où Mediapart découvrira qu'il a détourné la moitié des fonds de la grande loterie du patrimoine pour financer la réhabilitation d'un jacuzzi du Moyen-Âge à Tiron Gardé et d'un héliport gréco-romain à Paros, il fera certainement un long séjour. Bonjour Stéphane.
Ne rêvez pas, tout cela est des pure fiction.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Si vous continuez, c'est vous qui finirez en taule. D'abord pour diffamation et ensuite pour tout ce que vous avez fait de mal dans la vie. Et moi, je ne donne pas d'exemple, il y en a trop. Oui, aujourd'hui, on part à la rencontre de trois esprits libres qui ont été un temps enfermés en prison. Et vous allez voir que la prison les a inspirés. Dans notre cellule aujourd'hui, on réunit l'écrivain Jean Genet, dont on célèbre les 35 ans de la disparition. Il a passé du temps en prison et l'a occupé à ce qu'il savait faire de mieux, écrire. C'est là qu'il a rédigé son roman Notre-Dame des Fleurs et commencé à mélanger fiction et réalité fantasmée qui nourriront toute son œuvre. Elle, c'est aussi en prison qu'elle a écrit son premier roman, L'Astragale, du nom de cet os du pied qu'elle s'est cassé en tentant et en réussissant surtout à s'évader. Je vous raconte le destin romanesque d'Albertine Sarrazin. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un ex-taulard bien vivant, lui, Joey Starr.
Oui, Stéphane, combien de fois avez-vous dit à la grande duchesse du Luxembourg « Laisse-moi zoom zoom zing dans ta Benz » Souvent, très souvent. C'est un artiste dont vous connaissez tous les tubes par cœur.
Tout le monde s'éclate à la queue leu-leu.
Oui, entre autres, en 2009, Joey Starr faisait un dernier petit détour par la casse-prison, un séjour qui lui a inspiré un nouvel album. Ce n'était pas la première fois que la zonzon inspirait notre poète du 9-3. Retour sur la carrière d'un ancien infréquentable devenu coqueluche du cinéma français.
Et avec nous, comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour. Alors là, Clémentine. Bonjour messieurs. Non, le personnage dont je vais vous parler, il n'est pas si connu, mais lui, il a trouvé l'inspiration, et une curieuse inspiration, avant d'aller en prison. C'est un serial piqueur, c'est-à-dire un homme qui se baladait dans Paris et piquait les fesses des dames. Hein. Et oui, cette histoire se passe en 1818, quand Vidocq était encore chef de la sûreté à Paris, et par bonheur, elle fit couler bien plus d'encre que de sang, mais vous allez voir, c'est rigolo.
Et puis, alors attention Stéphane, en découvrant le thème de la chronique de David Castello-Lopez aujourd'hui, Clémentine va certainement s'exclamer
« C'est débile
!» Il ne faudra pas la croire sur parole, car ça peut être intéressant. Oui. David, vous vous penchez aujourd'hui sur les origines des graphiques en camembert.
Mais oui, oui. Vous allez être surpris.
Voilà. C'est génial les graphiques en camembert.
C'est
bien
génial
sûr.
Les graphiques en camembert.
C'est les graphiques du Trivial Poursuite en camembert. C'est très beau, bien sûr.
Oui, là c'est plutôt des graphiques d'infographie qui,
oui,
qui
bien sûr, d'infographie. Vous avez pensé à ça. Oui.
Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Voilà,
exactement. Ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est pourquoi en camembert et pas en brie.
Oui, exactement. Tout à fait. D'ailleurs, les Anglais disent pie chart. Ils disent même pas.
Parce qu'ils n'ont pas de fromage.
Stéphane, essayez de recentrer les tartes, le fromage. On va parler d'un autre plat avec Olivier Pouls.
Un plat et en même temps un ustensile, le wok.
C'est la mode, ça.
Oui. Ouais.
Le wok. C'est déjà has-been, le wok. Voyons.
C'est déjà has-been, et moi, je viens de le découvrir. Ouais. Pourquoi tout de suite,
c'est
comme ça?
C'est mieux d'être has-been que des verbines.
J'en ai offert un à ma sœur en 2006, et ça n'en est jamais servi.
Voilà. Et voilà, 2006, il y a 14 ans.
Avec la recette que je vais vous donner tout à l'heure, elle va peut-être pouvoir le ressortir du placard.
Enfin, les amis, il est au quiz ce que le FC Nantes fut à la Ligue 1 cette année, un champion qui se réveille trop tard. Oui, c'est vrai, il enchaîne désormais les victoires, mais ça compte pour du beurre, puisque Clémentine a déjà été sacrée championne. Nous jouerons malgré tout pour la beauté du geste à Burn to be Alive aux alentours de 5h-10. Mais tout de suite, commençons par rendre visite à un grand écrivain qui fut aussi à ses débuts un petit délinquant que la prison a beaucoup inspiré. Stéphane Bern nous raconte Jean Genet.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Petite question avant le quiz, Stéphane, compte en commun Oscar Wilde, Solzhenitsyn, Dostoïevski et Verlaine.
Ah bah ils sont écrivains.
Il est fort. Mais ils sont aussi et surtout tous passés par la case prison. Mais lui a plus encore que les autres associé son nom à la prison, c'est l'écrivain Jean Genet. Une prison qui a inspiré son œuvre entre fiction et réalité fantasmée. C'est ce que nous raconte maintenant Stéphane Bern.
Jean Genet, c'est l'incarnation même de l'écrivain criminel, à la fois sulfureux et fascinant. Le lire, c'est le suivre dans un monde interlope, celui des cambriolages et du crime, celui de l'érotisme et de la sexualité, mais aussi et d'abord celui de la prison. Et la prison, non seulement Jean Genet l'a bien connue, mais il l'a connue très tôt. Il faut dire que sa vie n'a jamais été bien rose. Jean est né à Paris en 1910, mais sa mère le confie vite à l'assistance publique, qui le place alors dans une famille de menuisiers du Morvan. C'est là qu'il grandit, c'est là aussi qu'on le prend pour la première fois à voler. Jean Genet a 10 ans et il en garde un souvenir marquant, celui d'avoir dû avouer son crime devant tout le village. Alors ce petit garçon qu'on a décidé d'humilier publiquement se jure quelque chose de très simple. On le voit comme un voleur, un criminel ? Il en sera un. Ses vrais ennuis commencent vraiment à l'adolescence. L'assistance publique décide alors de placer Jean Genet chez un imprimeur, en région parisienne, pour y apprendre le métier de typographe. Mais Jean multiplie les fugues, ce qui lui vaut sa première condamnation. On l'envoie en Touraine, dans une sorte de camp de rééducation pour adolescents, la colonie pénitentiaire de Maitrey. Il a 16 ans, c'est une expérience qui va changer sa vie. Pour les jeunes délinquants, le mode de vie est très dur entre discipline militaire et morale religieuse. La colonie de Maitrey oblige à 8 prières journalières, de la gymnastique, des brimades, un régime au pain sec qui a l'eau, à la moindre incartade, le cachot, l'isolement et les coups. Mais paradoxalement, là-bas, Genet se sent enfin accepté. Pour la première fois de sa vie, personne parmi les autres prisonniers ne le juge ou ne lui fait la morale. Il est parmi les siens, les marginaux, les délinquants, ceux qui vivent en marge. C'est là qu'il connaît ses premiers émois homosexuels importants. C'est là aussi qu'il découvre certains grands auteurs de notre littérature et tout particulièrement un poète de la Renaissance, Pierre de Ronsard. Mais ce n'est pas encore la vraie prison, la centrale, qui elle viendra plus tard dans les années 30. Genet, qui a passé plusieurs années dans les troupes coloniales, a déserté pour rejoindre Paris où il vivote en fracturant quelques serrures, ici ou là. Ce sont ces petits cambriolages ou de petits vols pas bien glorieux qu'il envoie en prison. Il va y faire 12 séjours en tout, le plus souvent à la Santé ou à Fresnes. Il avait bien sûr déjà écrit des petites choses avant, mais c'est là, comme un déclic, qu'il va commencer à vraiment écrire au début de 1942, en pleine occupation allemande, dans un coin de sa cellule ou au cachot. Or, en prison, écrire n'est pas un droit. Il n'y a pas de papier, pas de table de travail. Encore moins une machine à écrire. Alors Genet écrit sur les feuilles de papier brun que les prisonniers utilisaient pour fabriquer des sacs et des emballages dans les ateliers. Son premier roman, né dans une cellule, c'est Notre-Dame des Fleurs, un livre qui raconte le Paris underground de l'avant-guerre, un monde de la nuit dans les milieux homosexuels, en suivant la vie d'un travesti surnommé Divine et de son Mac mignon les petits pieds. Genet a toujours dit qu'à cette époque, il écrivait pour lui. Je pensais ne jamais être lu. J'ai donc écrit sincèrement, avec flamme et rage, et d'autant plus librement que j'étais certain que personne ne me lirait, expliquera-t-il plus tard. Dans la foulée, Jean Genet entame Le Miracle de la Rose, un deuxième roman semi-autobiographique. Il en a déjà écrit 50 pages lorsque son gardien remarque son manège. Et non seulement le surveillant lui confisque le manuscrit, mais Genet est puni. En écrivant sur ses pauvres feuilles marronnasses, il a détourné un papier qui appartient à l'État. Mais qu'est-ce qu'on peut bien raconter quand on écrit en prison ? Le monde carcéral, évidemment, avec son côté sordide et misérable, mais Genet dévoile aussi ceux qui y vivent, leur parcours, leurs crimes, leurs révoltes. Il en fait aussi son petit théâtre érotique avec des visions d'hommes nus, le crâne rasé, tatoué et athlétique, brûlant de désirs refoulés, surveillé par des matons voyeurs. Ces obsessions, là, on les retrouve dans beaucoup de textes de Genet et jusque dans un film étrange de 1950, le seul qui n'ait jamais tourné, lui qui rêvait pourtant de cinéma. L'objet s'appelle Un chant d'amour. Et comment vous dire, Mathieu, disons que ça s'adresse à un public très... plutôt averti.
Je serais choqué.
Ce qui se dessine dans cette œuvre pensée dans le cadre étroit d'une cellule, alors que le corps est immobile, que le temps s'éternise et qu'il n'y a plus que l'esprit pour vagabonder, c'est la dénonciation de la norme. Cette norme sociale et sexuelle qui est tout ce que Genet déteste. Ses livres, ses poèmes, son théâtre, tout ce qui naît sous sa plume en prison est fait pour dénoncer l'hypocrisie de la société française. Une société qui le renvoie à ses paradoxes en lui montrant sa propre violence. Une violence qui, pour Genet, n'est pas plus noble sous prétexte qu'elle est légale. Ce n'est pas un hasard si dans les années 1970, après la guerre, Jean Genet fera partie avec Michel Foucault et bien d'autres de ceux qui lutteront pour l'abolition des quartiers de sécurité ou contre ces conditions de détention qui, à ses yeux, ne sont pas faites pour réhabiliter, mais pour punir et humilier. À le lire et à l'entendre dire, on pourrait croire que Jean Genet est un grand criminel qui a passé l'essentiel de sa vie en prison. Mais les deux sont faux. Genet a bien été condamné une bonne douzaine de fois, mais pour des larcins assez mineurs. Il a volé des livres, des vêtements, des bouteilles d'apéro. Il a bien commis quelques cambriolages, mais c'est surtout la récidive qui l'a envoyé en prison. Et encore, pour des courtes peines de quelques mois à chaque fois. Sur l'ensemble de sa vie, Jean Genet aura passé 4 ans en prison. Il en est sorti pour la dernière fois en 1944. Ce n'est pas rien, d'autant que c'est sur une dizaine d'années et qu'il faut ajouter les 2 ans et demi qu'il avait passé adolescent en colonie pénitentiaire. Mais c'est à relativiser lorsqu'on sait qu'il est mort en 1986 à l'âge de 75 ans. Il n'a jamais été ce criminel prêt à tout qu'il surjoue dans ses œuvres. Au XVe siècle, François Villon avait tué un prêtre, lui. Au XIXe, Verlaine a tiré sur Rimbaud. À côté d'eux, Jean Genet n'est qu'un petit voleur, un bidouilleur pas très doué. Il a souvent dit « Tous mes livres ont été écrits en prison ». Ce qui est faux, là encore. Jean Genet a évidemment construit une partie de son œuvre en prison. Mais il n'y a écrit qu'une petite partie de ses romans. Et surtout, Jean Genet n'a pas été coupé du monde toute sa vie. Dès 1943, son nom est connu grâce à Jean Cocteau. À partir de là, Jean Genet est un homme célèbre. On le voit en compagnie des intellectuels et des artistes dont il est l'ami, comme Cocteau donc, mais aussi Sartre et Simone de Beauvoir. Plus tard, le sculpteur Alberto Giacometti, qui comptera tant pour lui. Plus étonnant encore, il a tout juste 40 ans lorsqu'en 1951, ses œuvres complètes commencent à apparaître chez Gallimard, ce qui ne colle pas vraiment avec le portrait d'un rejeté. Pour cette publication, Genet avait d'ailleurs expurgé ses textes des éléments trop explicites, sexuels ou politiques, que l'on retrouvait jusqu'alors dans ses œuvres publiées clandestinement. Alors, est-ce qu'il a menti ? Non. Non, il a simplement fait de la littérature. Il a joué sur le vrai et le faux. Il a mêlé la réalité et la fiction avec une vie à moitié inventée. Et ce qui est certain, c'est que son œuvre ne serait jamais née sans son expérience de la prison. Toute sa vie, il a navigué de petites pioles d'hôtels minables en petites chambres de bonne qu'il était encore plus, comme s'il cherchait à reproduire les murs d'une cellule. Pourquoi ? Le mieux est encore de laisser Jean Genet l'expliquer. Quand j'étais en prison, j'étais maître de mon imagination. J'étais maître de l'élément sur lequel je travaillais. Parce que c'était uniquement ma rêverie. Pas vraiment criminel, mais sans aucun doute grand écrivain. Jean Genet était avant tout un doux rêveur.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Jean Genet, nous sommes avec l'universitaire et critique littéraire Gilles Philippe. Bonjour Gilles.
Bonjour messieurs.
Bonjour Gilles Philippe, vous êtes professeur de linguistique à l'Université de Lausanne et vous avez préparé avec Emmanuel Lambert l'édition des romans et poèmes de Jean Genet dans la prestigieuse collection La Pléiade chez Gallimard. Une nouvelle édition à l'occasion d'ailleurs des 35 ans de sa disparition. Dans l'introduction que vous co-signez, il y a cette phrase de Cocteau décrivant Genet à leur première rencontre en février 1943, c'est un personnage d'entre deux prisons, marqué par les prisons. Est-ce qu'à votre avis, cette formule décrit bien le personnage ?
Elle le décrit très bien. Hein. Vous le disiez, nous sommes au début de 1943. Genet vient de passer 6 mois en prison. Il va à nouveau y retourner quelques mois plus tard. Depuis 1937, sa vie est faite d'aller-retour entre la prison et le monde extérieur. Vous le disiez tout à l'heure, il ne va plus en prison après 1944, mais il faut garder en tête qu'il y a la menace de la prison pendant plusieurs années ensuite. Il est récidiviste, vous le disiez, ce qui veut dire qu'à la moindre incartade, il serait retourné en prison et peut-être pour très longtemps. Il faut la grâce présidentielle accordée par le président de la République, Vincent Auriol, en 1949, à la demande de Sartre et de Cocteau pour que cette fois-ci, eh bien, la menace de la prison s'éloigne définitivement.
Alors, Stéphane a dit il a passé 4 ans en tout de sa vie en prison. C'est combien de séjours en tout et on sait.
Alors, Stéphane l'a dit aussi, c'est une douzaine de séjours.
Douzaine à peu près, voilà,
une douzaine, toujours un peu compliqué à calculer parce que parfois il y a des cumuls, des changements.
Chaque fois quelques mois, quoi. Jamais plus. Il n'a jamais passé plus d'un an continu en prison.
Non, jamais plus de 6 mois continu en prison, à mon souvenir. Alors, donc je le disais, c'est essentiellement entre 1937 et 1944, mais il faut aussi se souvenir que. À l'âge de 16 ans, il a passé 3 mois, dans mon souvenir, à la prison parisienne de la Petite Roquette. Et, il est vraiment très très jeune. Une des conséquences de tout ceci, à laquelle on ne pense pas toujours, c'est que nous savons tout de Jean Genet. On a des levées d'écrou, on a des mandats de dépôt, mais on a aussi des interrogatoires de psychiatrie, on a des expertises médicales. C'est tout à fait étonnant.
Jean Genet décrit la colonie pénitentiaire de Maitrey, où il a séjourné, je l'ai évoqué à l'âge de 16 ans, comme l'endroit le plus beau de la plus belle Touraine. C'est d'abord ça, la prison pour Genet, un lieu où il a découvert la beauté des lieux, bon, la beauté des hommes aussi.
Genet y passe en effet 2 ans et demi et il y connaît une sorte de bonheur un peu paradoxal. Il y découvre une forme de beauté, la beauté du corps des adolescents avec qui il est incarcéré, et puis la beauté de la nature, la beauté des mots. Vous le disiez, il découvre Ronsard, la splendeur de la langue de la Renaissance. Il découvre aussi la beauté de l'argot. Et l'extrême beauté de la langue de Genet, Genet était obsédé par la beauté, l'extrême beauté de la langue de Genet, elle vient aussi de ce choc entre la langue la plus littéraire et puis cet argot dont il célèbre les images, les sonorités, etc.
On continue à parler de nos esprits libres, enfermés, et de Jean Genet en particulier, avec notre invité Gilles Philippe sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Des esprits libres enfermés, la prison les a inspirés. C'est notre thème cet après-midi dans Historiquement vôtre. On parle de Jean Genet avec notre invité Gilles Philippe qui a préparé l'édition des romans et poèmes de Jean Genet à la Pléiade. Alors, la prison imprègne son œuvre. Est-ce qu'on peut dire que sans ces années de prison dans sa jeunesse, peut-être il n'aurait pas été écrivain. Est-ce qu'on peut dire que la prison a été un déclic d'écriture pour lui ?
Ce serait peut-être un peu trop dire. On sait par exemple que Genet était un enfant qui aimait énormément lire, qui empruntait beaucoup de livres à la bibliothèque de son école. Sa scolarité s'arrête à 13 ans. Il va être rapidement envoyé comme petit secrétaire chez un compositeur de chansons populaires qui est aveugle. Et c'est là qu'il découvre Baudelaire, par exemple. C'est là qu'il apprend à faire des vers, des alexandrins. Au début des années 30, donc avant la prison, il cherche déjà à entrer dans le milieu littéraire. Et il va même aller rendre visite au grand écrivain de l'époque, qui est André Gide. Cela dit, je le conseille très volontiers, l'expérience de la prison, elle est déterminante. C'est là qu'il a commencé à écrire de façon vraiment sérieuse. Et puis, une autre preuve, c'est que lorsque, en 49, donc après la grâce présidentielle, la menace de la prison s'est éloignée, il va rester longtemps sans écrire. Et il l'a dit, pour lui, il y avait un lien très fort entre l'écriture et la prison.
Et en même temps, écrire en prison n'allait pas de soi. Je l'ai rappelé dans le récit, il a dû trouver des stratagèmes pour contourner cette interdiction d'écrire en prison, comme ces sacs de papier postaux sur lesquels il griffonnait. On sait qu'il a subi des confiscations et il a fallu qu'il recommence régulièrement les manuscrits qu'il écrivait.
En tout cas, 2 fois. Il a raconté un peu la même histoire pour ses 2 premiers romans, et peut-être a-t-il exagéré, mais on sait aussi par la correspondance avec son avocat que conserver des manuscrits en prison était une chose compliquée, éventuellement dangereuse même. Écrire en prison, vous le disiez, n'était pas simple. À l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine de Caen, on conserve par exemple une bribe d'un tout petit carnet, et Genet avait l'habitude de garder dans son habit de prisonnier quelques feuilles de carnet tout petits, je le disais, pour pouvoir écrire de façon discrète à l'occasion, mais ce n'était évidemment pas autorisé. Et pour rester un peu dans la même thématique, nous sommes sous la guerre, le papier est rare. Jean Genet écrit un premier poème en 1942, Le condamné à mort. Il veut le faire imprimer et à qui le confie-t-il ? À un ancien détenu qu'il a rencontré et qui s'était spécialisé dans l'impression et le trafic des tickets de ravitaillement. Donc c'est tout un monde et toute une époque.
On l'a dit, il était en prison plutôt pour des petits larcins, jamais rien de très très grave, dirons-nous. Il était en tout cas en deçà des crimes qu'il dépeignait dans ses écrits. D'où lui vient alors ce côté extrême de ce qu'il écrivait ?
Il a toujours été fasciné par les grands criminels. Il découpait leurs photos dans Paris Soir ou dans Détective, qu'il lisait avec passion. Il les accrochait à ses murs, à l'hôtel ou en cellule. Et le premier poème, le premier roman sont même dédiés à un assassin, Maurice Pilorge, qui avait été guillotiné en 1939 et puis dont Genet disait, c'est sans doute une pure invention, qu'il l'avait rencontré. Alors oui, c'est une écriture de l'extrême, la présence de la sexualité est extrême, même dans les éditions expurgées. Hein. Et puis, rien n'est plus extrême que le meurtre. C'est pas une littérature qui se serait contentée de mettre en récit de petits larcins.
Oui, c'est pas les malheurs de Sophie, hein. On n'est pas la comtesse de Ségur, là, non plus. Donc, quand on lit Jean Genet. Mais c'est vrai que il y a son rapport à la sexualité qui est très importante aussi dans ses récits en prison. C'est que il y a ce désir sexuel inassouvi et de la frustration aussi de l'homme enfermé.
Oui, oui, il est probable qu'à l'époque où paraissent les romans, on est plus choqué par cette sexualité au carré, au sens où c'est vraiment extrêmement cru, et d'autre part c'est homosexuel, que par la partie criminelle, ou de l'éloge criminel, puisqu'après tout, des crimes dans la littérature, il y en a toujours eu, et Genet faisait remarquer à qui voulait l'entendre.
On l'a un peu entrevu à la fin du récit, il y avait un autre Genet, plus du côté de la vie et de la société. On aurait tort finalement d'enfermer Genet dans sa seule prison?
Oui et non. Bien sûr, on aurait tort de l'enfermer dans sa seule prison, mais la seconde vie auquel on pense parfois en parlant de Jean Genet, elle intervient bien plus tard. Il y a une rupture vers 1950. Hein. Jean Genet devient un écrivain célèbre et le voici devenu donc admiré, célébré, etc. Il n'est pas à ce moment-là du côté de la vie, de la société. Il tend plutôt à fuir et il pense beaucoup à la mort, en fait. Ce n'est que un petit peu plus tard qu'il va revenir au théâtre, et puis que dans les années 70, donc c'est quand même beaucoup plus tard, qu'il épouse deux grandes causes hein, qui lui ont beaucoup tenu à cœur, la cause des Noirs américains d'une part, et la cause palestinienne d'autre part. Est-ce que c'est un autre Genet? Peut-être pas, mais assurément, c'est plus le même Genet.
Le même. En tout cas, il y a un texte de Genet qui a été sublimement mis en musique par Étienne Dao, c'est Le Condamné à mort.
Oui, alors sublimement interprété par Dao, parce que la mise en musique, qu'il reprend, elle est beaucoup plus ancienne, elle date du début des années 60, et elle est due à cette chanteuse magnifique qu'on a oubliée aujourd'hui, qui était Hélène Martin.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve, effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve.
Un poème que Genet avait, je crois, testé auprès du public, un public de prisonniers, c'est ça? Dites-nous.
Et même écrit pour un public de prisonniers. Il y a une anecdote qui en fait nous est rapportée par Sartre, qui la tenait de Genet. Nous sommes en mai 1942, Genet arrive, alors je ne sais jamais si c'est à Fresnes ou à la Santé, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, et puis ses co-détenus sont en extase devant des vers que l'un des prisonniers a composés, qui sont, d'après Genet, absolument ridicules. Et donc il dit, moi je peux faire bien mieux. Alors il compose les premières strophes du Condamné à mort, dont on vient d'entendre quelques lignes, et il les lit le lendemain à ses co-détenus, qui trouvent ça mais totalement nul, hein, qui se moque de lui de façon scatologique même, et puis l'un d'entre lui dit, d'après Sartre, des vers comme ça, j'en fais tous les matins. Et Genet commente cela auprès de Sartre en disant que le poème lui était devenu d'autant plus cher qu'il avait été méprisé par tous. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce système de tourniquet qui est la base du rapport au monde de Jean Genet.
En tout cas, merci Gilles Philippe de nous avoir éclairé.
C'était un plaisir.
On renvoie nos auditeurs aux romans et poèmes de Jean Genet édités dans la collection de la Pléiade chez Gallimard. Une nouvelle édition que vous avez minutieusement préparée avec Emmanuel Lambert.
C'est bien ça.
Merci beaucoup.
Merci messieurs.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qui piquent souvent notre curiosité. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, votre histoire ne manque pas de piquant, justement. Vous nous présentez un serial piqueur.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce genre de...
Pas du tout.
Ce genre de fantasme, là,
des
hommes qui piquent
les fesses.
Piquer
les fesses. Avec quoi?
Tout est là. Hein. Quelle était l'arme du crime? Oui, quel genre de pique? En tout cas, j'ai trouvé cette anecdote assez amusante dans Amour, gloires et ratés de Guillaume d'Essay. Il a le beau nom d'un général de Napoléon chez Buchet-Chastel. C'est une compilation de tas de petites histoires étonnantes et celle-ci m'a plu particulièrement. Alors ça se passe à l'époque de Vidocq, donc le début du 19e siècle. Vidocq est chef de la police et puis pendant plusieurs semaines, un scénario se reproduit constamment. Des femmes viennent témoigner qu'alors qu'elles se promenaient paisiblement dans Paris, tout à coup, elles ressentent une violente douleur à la hanche ou dans les fesses. Elles poussent des cris, bien sûr, et là on voit un homme qui s'enfuit en courant. Hein, et en début 2018, début 1818, non mais moi je suis trop les pieds dans l'histoire, c'est tragique. Alors il y a même une femme qui a perdu connaissance aux Tuileries après avoir été piquée. Alors on va un peu examiner la blessure. On découvre de grandes et longues griffures sur le bas de son dos. C'est désormais établi un griffeur ou un piqueur en série. Sévit dans Paris. Ça devient chose courante. Hein. Tout d'un coup, vous vous promenez, on entend une voix stridente, une femme vient de se faire piquer. Le piqueur, quel est son profil ? Il aime la chair fraîche, parce que toutes les victimes sont âgées de 15 à 20 ans en moyenne. Donc, il aime les jeunes femmes. Bon, il leur pique les fesses naturellement, mais parfois, comme il agit un petit peu trop vite, il pique à côté. Bon. Oh. Les blessures, dans l'ensemble, sont superficielles, mais l'amour-propre en prend un gros coup. Alors les femmes commencent à éviter de sortir le soir toutes seules ou d'aller dans des lieux trop fréquentés où le piqueur pourrait agir en toute impunité. Alors, effectivement.
Mais elle ne le voit pas venir.
Écoutez, comment voulez-vous voir venir ? C'est comme si vous avez quelqu'un avec votre parapluie, vous avez des robes un peu larges, si vous voulez. Dans une foule, il agit plutôt dans les foules. Tout d'un coup, quelqu'un vous pique la fête. Vous croyez que quand vous êtes dans le métro, quelqu'un vous pelote,
Stéphane,
vous voyez tout de suite de qui il s'agit ?
On voit
que ça vous est jamais arrivé.
Ça m'arrive de prendre le métro, mais jamais de me faire peloter, pardon.
En tout cas, la police s'interroge.
On s'en prend en regret.
Oui, on a l'impression que vous regrettez. Là, la police s'interroge sur l'arme du crime.
On a toujours envie d'être importuné comme disait Catherine Deneuve.
Mais alors, en plus, avec un poinçon, une canne ou un parapluie muni d'une grande aiguille, ça fait mal quand même.
Oui, hein.
Et attendez, à la fin de l'automne 1818, près de 400 femmes.
Ah non.
Mais oui.
Ils n'ont pas trouvé
mais
la
c'est pas 400
il
femmes signalées à la police. Non, c'est pas
mais 3 clampins. En plus, à 15 ans, on peut courir quand même.
Non, mais enfin,
on peut rattraper. On peut rattraper le.
Pas si vous êtes en jupon à crinoline. Oui, hein. Bon, écoutez, en tout cas, on l'a pas attrapé. L'année de 1819 suit avec son cortège d'articles ironiques. Bien sûr, il y a des chansons populaires qui fleurissent sur ce thème. Et puis, les bruits courent vite et s'amplifient. On raconte que les piques seraient empoisonnées. Qu'il y aurait non pas un, mais plusieurs piqueurs pervers sévissant en ville. Pire encore, les piqueurs s'attaqueraient maintenant aux hommes, publie le Moniteur. Les vampires invisibles qui depuis quelque temps exercent sur les jeunes personnes leurs passe-temps atroces, encouragés par l'impunité, paraissent vouloir étendre leurs exploits honteux sur les hommes qui jusqu'à présent avaient été à l'abri de leurs coups. Alors maintenant, oui, si ça concerne les hommes, là il faut vraiment agir. Ouais. Il y a des petits malins qui flairent la bonne affaire. Un certain Libert, pharmacien dans le Marais, se met à vendre un beau miracle pour soigner les piqûres. Et un armurier va encore plus loin, qui met en vente une sorte d'armure ou de cuirasse calipige en métal léger, un protège-fesses que les demoiselles peuvent porter sous leur jupon. Non mais on en est là. Et finalement, fin janvier 1820, un certain Auguste-Marie Bizol, 35 ans, tailleur de son état, donc supposé expert en aiguille, est piégé par des prostituées, il est arrêté. Il est reconnu par 3 victimes seulement, et en dépit de la fragilité des preuves contre lui, il est condamné en première instance, puis en appel à 5 ans de prison et 500 francs d'amende. À l'époque, ça fait dans les 1200 euros, mais c'est beaucoup à l'époque. On raconte en ville que Vidocq l'a désigné comme coupable sans aucune preuve, mais d'ailleurs, 3 ans plus tard, ça reprend de plus belle, mais là, la presse s'en fiche complètement. Ça y est, le serial piqueur, on a déjà traité ça. Ça n'intéresse plus personne. Ce qui est troublant, c'est que des faits identiques vont se produire à Lyon, Bordeaux, Marseille, à Bayonne, à Soissons, à Amiens.
Mais enfin, vraiment,
partout en France. Mais c'est des copieurs. Vous voyez, les copycats. Ouais, les copycats, exactement. Voire même à l'étranger. À Bruxelles, on découvre que c'est des écoliers qui ont fait une farce. Mais à Augsbourg, à Berlin, le serial piqueur est dans toute l'Europe. Bon, et après, des serial piqueurs comme ça, il y en aura plusieurs. Par exemple, 70 ans plus tard, en 1891, c'est l'affaire de l'homme aux épingles. C'est un diamanteur parisien qui pique ses victimes sur toutes les parties du corps avec ses aiguilles. Et puis en 1895, cette fois, c'est l'homme au canif. Alors, comme la sexologie n'en est qu'à ses balbutiements, mais on va faire entrer ces piqueurs en tout genre dans la catégorie des pervers, sadiques, fétichiste. Explication psychanalytique donnée par Emmanuel Furex dans Histoire d'une peur urbaine, les piqueurs de femmes sous la Restauration. Le profil des victimes, la recherche de l'écoulement du sang et l'instrument du délit, artefact du sexe masculin, rattachent symboliquement la piqûre à une défloration. Dans une société où la préservation de l'hymen est fondamentale, où la défloration suscite une remarquable anxiété, où on comprend mieux que les gestes des piqueurs aient pu susciter une telle panique collective. Enfin là, j'ai essayé d'élever vaguement le débat, oui. Mais je vous renvoie à toutes sortes d'anecdotes de ce genre, dont « Amour, gloire et raté » de Guillaume Dessay, chez Buchet-Chastel, dont les fameux piqueurs de fesses.
Merci beaucoup, Clémentine.
Je comprends que vous me remerciez, parce que ça, c'est quand même
une histoire. Oui, on a appris plein de choses sur ces piqueurs de fesses.
La psychologie humaine est vraiment étonnante. J'ai du mal quand même à comprendre comment on peut avoir envie de piquer quelqu'un. Oui. Surtout que, je comprends les plotteurs du métro, éventuellement. Je ne les pardonne pas, mais je les comprends. Mais alors, piquer quelqu'un, je ne vois vraiment pas
l'intérêt. C'est bien, Mathieu, c'est que vous êtes un bon garçon et que vous n'êtes pas sadique fétichiste.
Puis à quoi ça sert de faire du mal à autrui?
Oui, mais ça, c'est une autre question.
Oui, alors là, vaste problème, comme disait le général de Gaulle.
En tout cas, voici une séquence qui va piquer votre curiosité. Le quiz arrive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Durant sa rubrique « Dans l'intimité de l'histoire », Clémentine est cul et chemise avec Stéphane Bern. Ensemble, ils rient à gorge déployée des secrets que nous révèle Clémentine, comme dernièrement le fait que Malraux souffrait du syndrome Gilles de la Tourette.
Il a quand même des tics assez handicapants, Malraux. Vous savez qu'il avait le syndrome de la Tourette. Hein.
Donc il disait des grossièretés. « Entre ici, connard Jean Moulin
!»« Espèce de couillon !»
Tout ça est délicieux, participe d'une bonne ambiance dans l'équipe. Seulement voilà, dans une émission d'histoire, même à vocation divertissante, il y a un moment pour rigoler comme des baleines et un moment pour réfléchir un peu. Je suis désolé de vous dire que ce moment est venu. Jouons à Bern to be alive. Alors, notre célèbre quiz.
Oui.
Stéphane, essaye de nous reprendre un petit peu et d'arrêter de salir la mémoire.
Avouez que ça aurait du piquant.
Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Oui. Pendant la guerre d'Algérie, l'armée française a construit 150 engins assez étonnants, des Solex sur lesquels ils avaient soudé des mitraillettes. Ces drôles de machines n'ont jamais servi et sont restées en métropole car elles étaient finalement trop lentes. Vrai ou faux ? Des Solex mitrailleurs.
Alors, bien, hein. quel intérêt. Ah, il aurait fallu. Attends, si, il aurait fallu que la mitraillette soit posée à l'avant du Solex. Mais ça veut dire quoi? On ne peut pas rouler dans les cailloux, dans les Aurès, derrière des Félagas. Bon, enfin, cela dit, quand on a mis au point dans les avions les mitrailleuses, là, on calculait, ça a commencé par des balbutiements d'un truc assez inutilisable.
Est-ce que, Clémentine, vous voulez prendre ma question? Je prendrai la deuxième.
Ah, c'est possible! Ça, c'est possible. Alors, si vous avez une intime conviction, que Jean-Stéphane n'a aucune idée de la réponse.
J'ai aucune idée.
Si vous voulez prendre la réponse, vous avez le droit. Mais attention.
Ah non, parce que là, vraiment, je pense que le coup du Solex. Et alors, on aurait fait ça. Non. À quoi ça aurait servi?
Parce que moi, j'aurais répondu non, personnellement. Ouais. Mais je peux me tromper.
Moi aussi, je répondrais non.
Ouais. On répondrait non.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse. Mais c'est une bonne réponse pour Stéphane. C'était sa question. Oh Stéphane, faux.
Zut alors.
En revanche, il y a eu, d'où cette question, il y a eu la Vespa 150 TAP. C'était une vraie Vespa avec un mortier intégré spécialement construit pour l'occasion. Le but n'était pas de tirer depuis le scooter, mais de les transporter de façon rapide. Il y a eu environ 600 Vespa 150 TAP de construits.
Mais elles ont été envoyées en Algérie ?
Ah ben oui, bien sûr. Oui. Question numéro 2. Clémentine, c'est pour vous. Ça, c'est votre question, Clémentine.
Oui. Mais
donc, Stéphane va pouvoir réfléchir. Les Britanniques aiment les clubs. Tous ceux qui ont été au moins un an garde royale de la British Army ont le droit d'intégrer le Welsh Guards Club. Ils ont droit à une cravate et une médaille. Vrai ou faux?
Ça, c'est très plausible, c'est les rituels des clubs.
Semble, hein, ouais.
Vous n'êtes pas dans un club en Angleterre
Je n'ai pas cette chance, Stéphane. Je ne suis pas lord comme vous.
Non, mais je ne suis pas... Sans être lord, on est affilié à des clubs. Et ce sont les hôtels les moins chers à Londres. Hein.
Ah, parce qu'en plus, quand vous allez voir la reine d'Angleterre, vous dormez dans un hôtel, c'est gratuit.
Oui, c'est moins cher qu'un hôtel.
Ah, les bons plans, le petit futé de Stéphane.
Le Cambridge and Oxford University Club, auquel je suis... personnellement affilié.
Il vous laisse entrer dans ce club alors que vous prononcez Cambridge, Oxford comme ça
Oui, parce que l'accent français en anglais a un charme chic. C'est irrésistible.
C'est juste à côté du palais de St. James.
Oh, c'est parfait.
Donc vraiment à 2 minutes à pied
et
de Buckingham.
Et vous pouvez parrainer
Oui, si vous voulez,
il faut. Mais... Non, il faut.
Par contre, ils ont des petits lits.
Bon, dites donc, messieurs,
vous
c'est ma question.
Jamais
hein.
entrer dans le lit.
Ah, pardon, on avait oublié votre question, Clémentine. Vous répondez.
Donc,
vrai
je
ou
dis
faux.
Oui.
Vous avez perdu.
Et vous auriez dû réfléchir, c'était beaucoup trop simple, c'était un piège. Le Welsh Grounds Club n'existe pas. En revanche, il existe le Martin Baker Club. Qu'est-ce que le Martin Baker Club, d'après vous?
I don't know.
Toutes les personnes pilotes d'avion qui ont utilisé une fois dans leur vie les sièges éjectables Martin Baker, parce qu'apparemment c'est une marque célèbre, deviennent membres à vie du Ejection Tie Club et ont effectivement droit à une cravate et une médaille.
Comment voulez-vous que je sache ça ?
C'était impossible, c'était
non,
impossible.
Non, c'est vraiment pas juste.
C'est impossible. Mais c'est ainsi.
Ah, mais moi, j'étais prêt à vous donner ma première question.
Ouais, vous n'en avez pas voulu. C'est pourquoi je ne vous en veux en aucun cas, cher monsieur.
Je vous remercie, madame.
Ne nous disputons pas. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Peut-on être royaliste et républicain? Voilà une question qu'on aurait pu mettre dans la nouvelle campagne de pub d'Europe 1. Eh bien, dans le 3e et 4e arrondissement de Paris, la place des Vosges, c'est avant ça appelé place royale, mais aussi place de la République. Vrai ou faux? Là, vous n'avez pas le droit d'aider, Stéphane. Vous avez fait le trivial poursuite sur Paris.
Elle s'est jamais appelée Place de la République. Elle s'est appelée Place des Vosges parce que ce sont les Vosgiens qui, les premiers, ont financé, ont payé l'impôt à la Révolution française. Et donc, en leur hommage, on l'a appelée Place des Vosges.
Vous avez raison, Stéphane. Elle s'est jamais appelée Place de la République. Hein.
Découvrons la réponse. Vous avez entendu ce jingle incroyable?
Mais oui, pourquoi c'est...
Vous
c'est...
avez gadu ou pernier. Vous avez gagné et perdu à la fois, Stéphane.
Oui.
Et vous aussi, par la même occasion, vous êtes scandaleux parce que vous avez écrit le trivial
poursuite. Oh, dites donc, ça suffit.
Cette place
hein.
s'est appelée
Je
la
suis
place
gâteuse,
royale
vous le savez.
Et aussi la place de la République. Pendant la Révolution, elle change encore de nom. C'était aussi la place des fédérés, la place de l'indivisibilité et oui. la place de la fabrication des armes. Mais en 1800, elle devient Place des Vosges en l'honneur du département qui a été le premier à payer un impôt pour enflouer les caisses de l'État. Et ça, Stéphane, rien que pour ça, je vous donne donc un demi-point. Bravo, Stéphane.
À quel moment c'était appelé la Place de la République?
J'en ai foutrement aucune idée. Mais si on m'a dit que c'était la Place de la République, 1830, qui dit mieux, ça m'est revenu comme ça. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Parfois au cinéma, dans les romans, des œuvres proposent des combats entre des personnages qui n'ont pas grand-chose à voir. Signalons par exemple Godzilla contre King Kong, Alien versus Predator, Superman contre Batman. Dans un autre genre, au début du XXe siècle, Maurice Leblanc, le papa d'Arsène Lupin, a écrit un roman avec Sherlock Holmes. Vrai ou faux?
Écoutez, ça serait possible puisque je sais que... Comment s'appelle la bande à Bono? Bono a été le chauffeur de Conan Doyle et ils sont contemporains. Et oui, je pense que c'est possible. Oui, oui.
Vous dites que c'est possible?
Vous avez gagné.
Vous avez gagné. Hélas. C'est quand même Stéphane qui remporte le quiz, puisque Stéphane remporte le quiz brillamment 1,5-1.
Il fait celui qui est lassé par ses victoires. Il faut quand même pas exagérer.
Si,
regardez cette espèce de mou dédaigneuse là.
On peut même le dire à nos auditeurs.
Il a tiré la dragée haute.
On peut même révéler à nos auditeurs qui nous suivent en vidéo sur europe1.fr. Stéphane a consulté négligemment son portable au moment où j'allais le. Imaginez Miss France, on lui met la couronne sur la tête. Imaginez qu'elle soit là. Oui, bof, merci.
Il fait peu de cas de. Il fait peu de cas d'un triomphe acquis de façon aussi unique.
Parce que on sait maintenant ce que valent vos quiz historiques.
Mais je suis désolé, on a appris des choses. Ben vous-même, vous ne saviez pas que la place des Vosges s'était appelée la place de la République.
C'est
quand
même important. Oui, mais en 1830.
Et alors, c'est l'histoire.
Oui,
mais
bon, d'accord.
Qu'est-ce que c'est que cette récrimination? Victoire de Stéphane, mais attention. On ne conteste plus la qualité des questions.
Et après, quand on vous interroge pour approfondir une de vos questions, vous dites j'en sais fichtrement rien.
Mais j'avoue mes limites, contrairement à vous.
h 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. Chaque après-midi, l'histoire sans se la raconter autour de trois personnages très différents mais unis par un point commun. Aujourd'hui, on réunit dans notre cellule des esprits libres enfermés, des talents que la prison a inspirés.
Oui, Stéphane, ils sont la preuve qu'un petit passage en prison peut être une chance, à condition bien sûr d'avoir du talent.
Après Jean Genet, qui en avait du talent, je vous raconte l'histoire émouvante d'une ancienne délinquante qui, après un séjour en prison, a repris sa vie en main pour devenir écrivaine. Elle s'appelait Albertine Sarrazin et vous allez voir que sa vie était un roman, un peu comme celle de notre troisième personnage du jour, Mathieu, à qui la prison a également profité. C'est vous qui nous brosserez le portrait de Joëstar, n'est-ce pas ?
Oui, alors au moment de se répartir les portraits, on a décidé que ce serait plutôt moi qui ferais Joëstar, rapport à votre connaissance, on va dire, limitée de la scène rap française, Stéphane, puisque je vous rappelle que la dernière fois que vous avez croisé Joëstar à un cocktail, vous m'aviez dit le lendemain...
Il est sympathique, ce Jay-Z.
Donc, c'est mieux que ce soit moi qui gère son portrait.
Nous n'oublions pas les chroniques et nos chroniqueurs, David Castel-Lopez, qui nous raconte les origines des infographies,
c'est plus spécifique, c'est les graphiques en camembert, mais on va voir que c'est la même personne en fait qui a inventé les graphiques en camembert et les autres graphiques qu'on aime tous
mais
beaucoup.
Mais comment on faisait avant les graphiques en camembert? C'est quand même pour illustrer des tendances
politiques. Mais on ne le faisait pas.
On ne faisait rien, donc on comprenait pas.
On méprisait même un petit peu le fait de faire des petits dessins.
Oui. Ah oui, carrément. Oui, c'était mal vu.
C'est parce que depuis que notre cerveau a rétréci, il faut
lui montrer les choses. Voilà. Vous faites
effectivement. Et puis on va parler des woke, des où il y a des restaurants on ne cuisine que par woke.
Avec des woke, c'est un moyen de cuisson assez ingénieux et qui permet de faire des recettes diététiques. Et
ça vient du Vietnam ou du Cambodge, ça, non?
Bah, on n'est pas très loin, mais c'est pas tout à fait ça quand même.
Pas tout à fait.
On va dire que c'est dans la région, mais l'Asie est grande. Hein,
comme dirait OSS 117, bon, tout ça c'est pareil, quoi. C'est l'Indochine.
Alors dites-moi, le mot de la fin, Stéphane, c'est vous qui vous en chargerez comme d'habitude?
Oui, alors, non, parce que c'est une expression que vous utilisez tous. Quand on agit ensemble, on dit qu'on agit de concert ou qu'on agit de conserve. Bah, d'où viennent les deux expressions?
De conserve, j'ai jamais compris. De concert, j'arrive à comprendre, il y a une forme d'harmonie, mais alors de conserve, ça, je n'ai jamais compris. Oui. On va découvrir ça en fin d'émission avec vous. C'est dans la boîte, ça doit être ça. Tout de suite, commençons par une femme de lettres assez étonnante et méconnue. Elle a connu la délinquance, la prostitution, la prison, puis la rédemption. Stéphane Bern nous raconte Albertine Sarrazin.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Elle s'est faite attraper, elle est tombée, elle a été emprisonnée, elle a grimpé, elle est sortie, elle est tombée. Amoureuse, elle a été libre, puis enfermée, puis libre à nouveau, puis elle est retombée. Une vie de haut et de bas qu'elle a couchée sur le papier, faisant passer son nom à la postérité, avant de définitivement tomber. Stéphane Bern nous raconte le drôle de destin d'Albertine Sarrazin.
Si vous connaissez la Somme, Mathieu, vous connaissez peut-être la citadelle de Doullens, une place forte qui remonte à Henri IV à la frontière de l'Artois. C'est l'une des plus belles forteresses de France, mais elle n'a jamais beaucoup servi d'un point de vue militaire. Avec le temps, en revanche, avec son mur d'enceinte de 12 mètres de haut, la citadelle est devenue une prison. C'est en haut de ce mur que le destin d'Albertine, pas encore Sarrazin, mais Damien, a basculé dans la nuit du 9 avril 1957. Albertine Damien, ou plutôt matricule 504, est alors l'une des nombreuses femmes incarcérées à Doullens. Elle a 20 ans à peine, c'est-à-dire qu'elle est encore mineure à l'époque. Mais voilà, 3 ans plus tôt, avec une amie, Albertine a braqué un magasin à main armée. Son amie a tiré et la vendeuse a reçu une balle dans l'épaule. Ce n'est pas elle qui a fait feu, mais c'est elle que la cour d'assises pour mineurs condamne à la peine la plus lourde, 7 ans de prison. Au-delà de son crime, la jeune femme a d'abord payé son insolence. Celle qui lui fait dire au juré « Je n'ai aucun remords et quand j'en aurai, je vous préviendrai ». Mais elle paye aussi son parcours. Celui d'une petite fille adoptée à Alger par un couple respectable, avec un père militaire, une mère infirmière. Albertine avait tout pour être heureuse sur le papier, mais à 11 ans, un oncle la viole. La blessure est profonde et petit à petit, la bonne élève, la petite fille sage qui accumule jusqu'ici les récompenses et les bons points, commence alors à se révolter et à fuguer en accumulant les menus délits. Au point de devenir une petite criminelle en puissance, une prostituée aussi parce que, à ses yeux, tous les moyens sont bons pour rester libre. Voilà donc comment Albertine se retrouve incarcérée à Doullens. Voilà aussi ce qui la pousse à s'en évader. Le 9 avril 1957, en pleine nuit, Albertine est au sommet de ce mur d'enceinte qui fait 10 fois sa taille, elle qui fait 1m57 à peine et qui est toute frêle. Mais la petite prisonnière est allée trop loin pour reculer, alors Albertine saute. Mais elle se reçoit mal et elle se casse un os du pied, l'astragale, celui qui fait la liaison avec le tibia et le péroné, Impossible de marcher, alors elle rampe sur quelques centaines de mètres. Et c'est là, au bord de la route, qu'un petit malfrat en cavale, Julien Sarrazin, la croise, la récupère et l'emmène avec lui pour la soigner chez sa mère. Un vrai petit miracle, mais après tout, ce 9 avril 57, c'est la nuit de Vendredi Saint. Julien et Albertine tombent amoureux. Ils ne se quitteront plus jamais. C'est le début d'une drôle de cavale romantique. C'est aussi celui d'une belle aventure littéraire. Albertine est reprise un peu plus tard. Elle retourne en prison et l'astragale, cette os du pied qu'elle s'est brisée, devient alors le titre d'un roman qu'elle commence à écrire. Ce livre, ce petit roman d'amour, comme elle dit, elle l'écrit pour Julien qui l'attend dehors. Elle l'écrit pour s'occuper, mais elle l'écrit surtout parce qu'elle n'a pas le choix, parce que ça lui vient, parce que les mots se bousculent. Plus tard, invitée sur un plateau de télé, Albertine aura ces mots. « Un jour, le tintamarre me prend et j'écris. Ce n'est pas moi qui écris, c'est ma main, mon bic. Moi, je ne suis pas responsable. » Après l'astragale, il y aura la cavale, un récit de ses années de prison et de fuite. Et puis des textes isolés, des poèmes, un journal de prison. Toute une œuvre qui naît entre 1958 et 1964, à une époque où Julien et Albertine n'arrêtent pas d'entrer et de sortir de prison au gré de petits crimes pas bien méchants, mais qui ne cessent jamais vraiment. Et puis en 1964, tout change. Cette année-là, Albertine envoie l'un de ses manuscrits à l'ancien médecin de la prison de Doullens. Une psychiatre qu'elle aimait beaucoup, c'est elle qui envoie alors le texte d'Albertine à Simone de Beauvoir. Et ce geste va tout changer. Beauvoir est instantanément conquise par le style d'Albertine, un style qui passe par l'argot et par une gouaille moqueuse, mais c'est aussi l'originalité de ses sujets qui la frappe. Dans sa réponse, Beauvoir écrit « C'est la première fois qu'une femme parle de ses prisons. Elle a par moments un ton magnifique, un style saisissant. » Simone de Beauvoir contacte plusieurs maisons d'édition et c'est finalement Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur de Sartre et de Georges Bataille, qui l'emporte d'un souffle sur Gallimard. L'astragale et la cavale paraissent la même année, en 1965. Le succès est à la fois instantané et stupéfiant. En 6 semaines, le petit roman d'amour se vend à 80 000 exemplaires. 10 ans plus tard, il a été traduit en 17 langues et l'œuvre d'Albertine Sarrazin a déjà été vendue à 3 ou 4 millions d'exemplaires dans le monde entier. Albertine gère le succès comme elle peut, avec un mélange de fierté et de plaisir, bien sûr, mais aussi de détachement. Écrire, pour moi, c'est un moyen de me survivre uniquement. Le reste, le fric, la gloriole, c'est accessoire. Installé dans les Cévennes, le couple n'a plus de soucis à se faire. Le temps des cambriolages et des cavales est derrière eux et en 1966, Albertine apprend que l'astragale va être adaptée au cinéma. Mais Albertine ne verra jamais Marlène Jobert incarner Anne, le personnage central du livre, son héroïne et son double littéraire. À 29 ans, la jeune femme a déjà subi une vague d'opérations du pied pour tenter de réparer une bonne fois pour toutes ce fameux astragale. Mais c'est pour un problème au rein qu'elle est admise à l'hôpital de Montpellier au mois de juillet 1967. Hélas, l'opération tourne à la catastrophe. L'anesthésiste qui la prépare ne connaît ni son groupe sanguin ni son poids, ce qui est pourtant le strict nécessaire avant d'endormir un patient. Celle qui aimait tant la liberté dans la vie comme en littérature meurt là, sur une table d'opération. Pour Julien, l'amour de sa vie, c'est évidemment une peine infinie. Mais c'est aussi une colère immense. Convaincu que les médecins n'ont pas fait leur travail correctement, il attaque la clinique et, à force d'acharnement, réussit à gagner son procès et à faire condamner les médecins pour ce qui est enfin reconnu comme une faute professionnelle. La mort brutale d'Albertine aura au moins eu le mérite d'amener à une prise de conscience sur le monde médical avec ses protocoles d'anesthésie qui seront entièrement revus au cours des années suivantes. Sans doute pas de quoi consoler Julien, qui a peut-être pensé bien souvent à ces mots d'Albertine Sarrazin. Toute la littérature ne vaudrait pas, ce soir, la simple émotion de me serrer contre toi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer de parler d'Albertine Sarrazin, nous sommes avec l'historienne Véronique Blanchard. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Oui, Véronique Blanchard, vous êtes historienne, vous êtes l'auteur de Vagabonde, voleuse vicieuse, sous-titré Adolescente sous contrôle de la libération à la libération sexuelle, récemment paru aux éditions Les Pérégrines. Vagabonde, voleuse vicieuse, ces trois mots décrivent bien, selon vous, la perception d'Albertine Sarrazin à l'époque, avant que l'on ne reconnaisse en elle une grande écrivaine et une femme émancipée?
Oui, complètement. Albertine Sarrazin, c'est une fugueuse, hein, c'est une jeune fille qui s'est beaucoup échappée, échappée de chez elle, échappée du bon pasteur de Marseille, échappée ensuite de la prison. C'est aussi parfois une jeune fille qui a volé, hein, une petite voleuse, on pourrait dire. Puis une vicieuse, bah, ça c'est vraiment un terme qu'on va employer pour ce genre de jeune fille extrêmement libre. Elle a des amours libres, elle a une perception de la liberté, et de la liberté sexuelle en particulier, très forte. Donc oui, je pense que ce sont des mots, avec bien sûr des guillemets, qui dans les années 50 qualifient extrêmement bien Albertine Sarrazin.
Notre émission porte sur les gens que la prison a inspirés. Est-ce que vous pensez, est-ce que c'est votre conviction qu'Albertine Sarrazin serait devenue écrivain, écrivaine, comme on dit maintenant, si elle n'était pas passée par la case prison, où ça a été vraiment le déclencheur pour elle?
Je pense qu'Albertine a toujours écrit. Albertine, à 10 ans, écrivait, même si à l'époque elle s'appelait Anne-Marie. Elle a écrit quand elle avait 15 ans au Bon Pasteur. Mais effectivement, une fois en prison, il y a beaucoup de temps qui doit se passer en prison où on n'a rien à faire. Et du coup, Albertine a beaucoup, beaucoup noirci des petits cahiers de sa petite écriture. Et je pense qu'elle avait des choses à dire, non seulement de ce qui s'était passé avant la prison, mais aussi de ce qui se passait en prison. Et ça a effectivement, ça lui a donné à la fois de l'inspiration, du temps pour poursuivre son œuvre d'écrivaine.
La prison, Albertine Sarrazin y a beaucoup séjourné, elle l'a aussi beaucoup fui, notamment avec son évasion magistrale qu'elle raconte dans l'Astragale. Qu'est-ce que ça nous raconte du système carcéral de l'époque? Les évasions réussies, comme celle d'Albertine, étaient courantes?
Alors, non, ça n'a jamais été courant, hein, de toute façon, de s'échapper, de s'évader d'une prison. Ce qui est plus courant, et Albertine est très jeune quand elle est enfermée la première fois au Bon Pasteur, dont elle va aussi s'évader, c'est plus courant que les jeunes fuguent de ces institutions, parce que c'est pas des institutions totalement hermétiques, et donc il est plus facile, hein, je mets des guillemets à plus, hein, de s'échapper et de sauter des murs. Donc voilà. Après, une fois dans une prison d'adulte, Albertine va avoir beaucoup plus de difficultés à s'échapper. Elle s'échappera par l'écriture, par sa relation épistolaire avec Julien, mais elle ne s'échappera plus en sautant des murs. Et puis d'autres figures, ben, en fait, ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que Papillon, le fameux Papillon, en lisant Albertine Sarrazin, s'est dit que lui aussi, il avait des choses à raconter de son évasion. Donc voilà, elle a été une figure inspirante, hein, si ce n'est pour les évasions, en tout cas pour écrire autour de la question de la prison et de la fugue.
Alors, de prime abord, on a tendance à un peu diaboliser Albertine Sarrazin. Il faut quand même resituer, mesurer qu'à l'époque, être une fille, une jeune fille dans la société très corsetée des années 50-60, c'était un peu déjà comme vivre dans une prison. C'était quoi les normes qui pesaient sur elle à l'époque ?
Oui, c'est très juste ce que vous dites. Je pense qu'il y a une pour certaines jeunes filles des années 50 et 60 et des jeunes filles qui avaient une figure comme ça assez émancipée comme Albertine Sarrazin, la vie au quotidien était quasiment une vie monacale et carcérale. C'est-à-dire qu'on demandait à ces jeunes filles d'être beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'être sages, d'être dociles, de respecter les normes qu'on dit aujourd'hui dans le langage historien, les normes de genre. Et donc elles devaient respecter un certain nombre de choses et bien sûr, par exemple, ne pas aller au bal, ne pas aller au bar, en tout cas pas sans chaperon, ne pas avoir de fréquentation trop proche avec les garçons. Et oui, il y avait une forme de très grande emprise sur le corps et sur ce qu'on devait faire ou ne devait pas faire quand on était une jeune fille dans les années 50 et 60. Et c'est aussi à ça qu'Albertine essaye d'échapper.
Mais vous soulignez aussi l'inégalité de traitement des filles et des garçons dans le système judiciaire à l'époque. Comment elle se mesure? Ça signifie que si Albertine Sarrazin avait été un homme, elle n'aurait pas eu droit au même traitement?
Oui, on ne traite pas les garçons de fugueurs, de voleurs et de vicieux surtout. Et on ne va pas du coup les arrêter pour les mêmes raisons. Et ensuite, on ne va pas les enfermer dans les mêmes lieux. C'est-à-dire que les garçons, ils ne vont pas dans les bons pasteurs et ils ne sont pas pris en charge par les religieuses dans les années 50 et 60. Et on ne les poursuit pas parce qu'ils vont au bal et qu'ils rentrent à 3 ou 4 heures du matin, ce qui suffit pour poursuivre une jeune fille. Donc oui, on a vraiment une forme de perception de la déviance et de la délinquance extrêmement différente quand il s'agit de garçons et quand il s'agit de jeunes filles.
Dans votre livre, vous rapportez qu'Albertine Sarrazin parlait ouvertement de ses relations amoureuses au Bon Pasteur à Marseille. Comment elle s'y prenait ?
Albertine, elle s'est retrouvée à 15 ans au Bon Pasteur de Marseille, dans un collectif très féminin. Il n'y a que des femmes, que des jeunes filles, avec des jeunes filles qui ont 13, 14, 15, 16, 17 ans, dans des temps longs. de placement. Et Albertine, elle va tomber amoureuse de plusieurs de ces jeunes comparses, dont Émilienne. Et c'est avec Émilienne qu'elles feront les 400 coups à Paris et qu'elles feront ce fameux braquage qui va mal tourner. Mmh. Et Albertine écrit à plusieurs reprises que le vrai amour, le seul amour, c'est un amour entre deux femmes. C'est très paradoxal, hein, puisqu'ensuite elle tombera amoureuse de Julien et que ça sera vraiment l'homme de sa vie. Mais voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement libre et qui a eu des relations sentimentales, amoureuses, extrêmement fortes avec certaines jeunes filles qu'elle a rencontrées dans les lieux de la claustration, dont Émilienne. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est dans les années 50 et 60 et qu'elle en parle, elle le revendique. Voilà, c'est pour ça aussi que Albertine est une figure extrêmement moderne à l'époque.
Elle a écopé de plus de prison que sa comparse parce qu'elle avait aussi son franc-parler, parce qu'elle était plus libre au fond dans sa tête.
Oui, elle a été considérée comme le cerveau de l'affaire. C'est Émilienne qui a le pistolet, c'est Émilienne qui tire. C'est Émilienne qui a d'ailleurs aussi un physique beaucoup plus viril que Albertine, qui était une silhouette très menue et très fragile. Mais Albertine, elle a cette impertinence de dire « mais enfin, on ne va pas se mettre en noir, elle n'est pas morte ». Et elle a cette précision dans les termes qui font qu'elle est considérée par la justice comme le cerveau de l'affaire, comme celle qui mène tout, et donc c'est elle qui va être envoyée en prison, alors qu'Émilienne, elle, sera envoyée dans un lieu de placement qui s'appelle Brécourt à l'époque, et qui est dans le Val d'Oise.
Mais merci beaucoup Véronique Blanchard. Je rappelle votre ouvrage « Vagabonde, voleuse vicieuse », récemment paru aux éditions Les Pérégrines. Tout un programme.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Très bonne fin de journée.
Merci.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces esprits libres qui ont été enfermés, mais que la prison a inspiré. Après Jean Genet et Albertine Sarrazin, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un artiste qui pourrait bien vous casser la gueule à 100% si jamais vous disiez trop de bêtises à son sujet. On vous écoute, Joey Starr aussi.
Écoutez, déjà, je remarque, et ça n'aura pas échappé à Joey Starr si d'aventure il nous écoute, que c'est vous qui le présentez comme un sanguin. Vous, Stéphane Bern, 3 rue du Collège Militaire, Tiron Gardé, 28480, Eure-et-Loir, code de la première grille 1515B, clé de la petite entrée sous le paillasson à gauche de la glycine. Moi, c'est au contraire quelqu'un que j'admire énormément, Joey Starr, à qui je pardonne tout, ses frasques, ses petits séjours en prison, son comportement pas toujours réglo avec les singes, parce qu'il nous a donné ça. Et que ça, Stéphane, n'en déplaise aux partisans du relativisme, on dira ce qu'on voudra, c'est mieux que Joule, comme vous dites. Oui, avec David, on est la première génération de vieux cons à pouvoir dire aussi « le rap, c'était mieux avant ». J'ai pas raison ? Allez alors, tiens Didier, remets-moi un jaune. Didier, c'est d'ailleurs le vrai nom de Joey Starr, un nom qui fleure bon le gérant de bar PMU ou le serial killer, Didier Morville. Il naît en Seine-Saint-Denis en 67. Très vite, il va avoir un petit problème avec l'autorité, notre Didier. Il faut dire que son père était plutôt du genre sévère, sévérité dont on peut mesurer l'ampleur à travers l'épisode funeste dit du Lapinou. Oui, petit, Didier avait un lapin qu'il aimait beaucoup. Il était mignon, ce lapin, du poil, des petits yeux. Là, seulement, voilà, un jour, Didier a fait une bêtise. Et pour le punir, son père a buté le lapin. Il l'a jeté dans une casserole pour le cuire avant de forcer le petit Didier à le bouffer.
C'est horrible.
Clairement, chez les Morville, on n'était pas très au fait de la méthode Montessori. C'est dans ce contexte familial tendu que Didier grandit, commence à sécher la plupart des cours. À 18 ans, c'est l'heure du service militaire qu'il va effectuer en Allemagne. On a du mal à imaginer Joey Starr au service militaire en Allemagne, si quelqu'un a des photos. Une expérience qui, hélas, ne tempère pas les ardeurs de notre adolescent incandescent qui se voit régulièrement placé à l'isolement pour insoumission. À son retour en France, il se reprend, Stéphane, se présente en candidat libre au concours de Normale Sup et reçu avec la mention summa cum laude et sort de la rue d'Ulm, majeur de sa promo. Non, je déconne. À son retour en France, il découvre la drogue par son versant le moins coûteux, le sniffage de cola rustine.
J'adore ça.
Papa Morville n'apprécie guère cette manie de gâcher bêtement de la colle. C'est pourquoi il suggère fermement à son fils de quitter le domicile familial pour aller voir ailleurs s'il y est. Pendant un temps, le futur Joey Starr va donc vivre dans les couloirs du métro. Quelques mois de galère sur lesquels il n'aime pas trop revenir, trop douloureux peut-être. Il était seul, il était à la rue. Pour se nourrir, il faisait comme il pouvait.
Non mais attendez, vous n'allez pas dans un McDo quand même?
Non, peut-être Stéphane, peut-être, qui sait. Vous savez, la misère nous pousse à faire des choses terribles. Bref, Didier passe de la colle à rustine à des drogues, disons, plus dures. Ce qui le sauve, c'est la danse.
celle-ci. Avec son ami Bruno Lopez, dit Cool Chain, son voisin de cité, il se prend de passion pour le hip-hop, commence à se produire dans la rue. L'idée de faire de la musique vient un peu plus tard quand Didier réalise que Cool Chain possède un poste qui fait radio-cassette. Oui, pardon, si t'es né après l'an 2000, une cassette, c'est l'application Deezer, mais que tu peux rembobiner avec un crayon à papier. En 88, voit le jour le groupe qui va changer le rap français à tout jamais. NTM, Nique ta mère, est né et rencontre très vite beaucoup plus de succès que son rival FTM, Fait tourner ta marquise, figure de proue du rap luxembourgeois mené par Notorious Bern et dont les grands tubes sont aujourd'hui tombés dans l'oubli, de Luxembourg Style à Marols, en passant par le très polémique Laisse pas traîner ton fisc.
Oui, bonjour.
Oui, monsieur Bern, c'est l'administration fiscale là.
Oui, qu'est-ce qui se passe?
Oui, vous avez déclaré 12 maisons, il en manque 3 là. Faudrait régulariser.
Oui, d'accord, je vais le faire.
L'histoire du rap oubliera FTM, pas NTM, dont le premier album Authentique en 91 est un succès immédiat. Suivront Ma Benz, l'histoire d'un homme qui compte fleurette à une femme en automobile, si vous voulez, c'est pas. Mais aussi Pose ton gun, Laisse pas traîner ton fils, des textes chocs, enragés, souvent engagés aussi, quoique pas dans le sens qu'aurait voulu Gérald Darmanin. Les détracteurs d'NTM retiennent la violence de certains propos à l'égard des policiers, en oubliant qu'NTM a aussi beaucoup prôné le partage, notamment dans le chef-d'œuvre Passe, passe le ouinge. Mais que reste-t-il à Rimbaud ? Joey Starr connaît 20 ans de succès avec NTM jusqu'en 2001, date à laquelle le groupe se sépare. Il poursuit son œuvre en solo, devient acteur. Et quel acteur ? C'est sa compagne de l'époque, la réalisatrice Mai Wen, qui le persuade de passer devant la caméra, sûr qu'il sera un comédien formidable. Or, savez-vous où elle lui parle de son projet de film Police, la première fois ? Elle va en tôle.
Ah, okay.
Oui,
ah bon.
C'est donc dans un parloir que Joey Starr se voit proposer son premier grand rôle, un rôle de flic. Police est un petit bijou, hein. La presse est unanime, le public aussi. Grisé, Mai Wen lance que Joey Starr est tout simplement le meilleur acteur français. Il faut dire que Didier a le don de faire chavirer le cœur des femmes. Ses relations passionnelles ont souvent défrayé la chronique avec Béatrice Dalle au début des années 2000. Béatrice est un camion, avait-il joliment dit dans l'Express. Béa, c'est un camion, on a fait les 400 coups, on est allé loin. Mais quand tu essaies de palper l'infini du bout des doigts, il te revient dans la gueule. Mais c'est avec la justice que Joey Starr aura finalement sa relation la plus suivie. En effet, tout au long de sa trépidante carrière, il s'est retrouvé à de nombreuses reprises derrière les barreaux. Des séjours qui, loin de le briser, semblent au contraire avoir galvanisé sa créativité, sa technique, noter tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, pour ensuite s'inspirer de ses tranches de vie pénitentiaires, de fines observations, comme par exemple à l'issue d'un petit séjour à Fleury-Mérogis, il dit « Si vous êtes en train de manger et que l'autre décide d'aller aux toilettes, ça peut casser une amitié. » Alors, pour oublier les travers de la promiscuité, Didier s'évade par l'esprit. J'ai la chance de pouvoir faire de la musique, ça écarte les murs, j'avais la tête qui vagabondait assez souvent. Tout ça est bien joli, mais je sais la question qui vous brûle les lèvres, Stéphane, sa perlipopette, qu'a-t-il dit entre fichu pour se retrouver en tôle un gentil garçon comme ça? Pour y voir plus clair, dans le casier judiciaire de Didier, je vous propose une frise chronologique. 96, première condamnation à 2 mois de prison avec sursis pour avoir comparé des policiers à, je cite, « des fachos habillés en bleu ». 98, il insulte 3 hôtesses de l'air, puis en gifle une, allez hop, avant de lui cracher au visage, 2 mois ferme. 99, 6 mois de prison ferme pour violence sur son ex-compagne. 2000, nouveau millénaire, nouvelle résolution, une seule condamnation de toute l'année pour avoir frappé le client d'une boîte de nuit, qui me souffle, Stéphane l'avait bien cherché. 2001, rechute, il est arrêté dans le cadre d'un trafic de cocaïne. 2002, l'affaire dite du singe, Didier frappe un singe sur M6, l'association Brigitte Bardot porte plainte et le fera condamner. 2003, Didier a toujours du mal à respecter les gestes barrières, il crache sur des gendarmes cette fois, 4 mois dont 3 avec sursis. 2009, Joey Starr revient sur le devant de la scène avec son nouveau programme, un boucher presque parfait. 2 ans de prison, là, dont 6 mois ferme pour avoir saccagé la voiture d'un groupe de jeunes à coups de hachoir. Circonstances atténuantes, les jeunes l'avaient insulté. Et puis, quand il n'est pas condamné à aller en tôle, il y va de son plein gré. En 2016, il retourne en prison une dernière fois, mais à l'occasion de la fête de la musique, où il se produit devant les détenus de la maison d'arrêt de Nice. Depuis, on ne l'a plus jamais revu de l'autre côté des barreaux, et pour cause, avec les années, le rappeur s'est largement assagi. Dernièrement, il expliquait même au magazine Gala, je cite... Mes enfants ont 15, 13 et 6 ans, je leur explique qu'il faut prendre tout ce que l'éducation nationale peut leur donner, transformer en acquis ce qu'on leur apprend afin qu'ils trouvent leur voie le plus vite possible. Putain, il a changé Joey Starr. Heureusement que d'autres rappeurs sont restés fidèles à leur street culture. Spéciale dédicace à Notorious Bern.
Wesh gros, ça va ou bien? Tranquille, la famille, toi-même, tu sais, wesh.
À vous, Notorious Bern.
Eh oui, c'est parti, ça vient de Chantilly, direct issu de la génération Hermès Givenchy. Luxembourg style, fou dans ton gilet Vuitton à base de pop 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 mec pour le gotage développe. Grand Duc Henri, c'est de la bombe, baby. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît à ton sac Gucci.
2021, le grand retour de FTM, fait tourner ta marquise. Pour ceux qui trouvent MTN un peu trop gentil.
C'était du slam, plus que
du slam.
Oui, du slam.
Oui. On va monter ça, on va faire une prod. Oui, ça va être numéro 1. Ça va être mieux que Youssoupha.
On va le lancer.
Europe 1, historiquement vôtre.
Ils nous remercieront longtemps de leur avoir apporté des oranges. Mais il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour.
Et oui Stéphane, l'heure de la promenade est terminée, retour en cellule. Nous on va s'intéresser à notre quotidien, c'est l'heure de remonter aux origines d'un plat qui est
d'un
aussi...
D'un plat et d'un ustensile qui est aussi en tôle, figurez-vous.
Là j'ai dit bravo.
D'où vient le wok? Qu'est-ce qu'on peut préparer avec? Vous nous le direz, Olivier, dans votre chronique. Le mot de la fin, c'est vous, Stéphane, qui l'aurait.
Oui, agir de concert, ça veut dire agir ensemble, mais d'où ça vient?
D'où ça vient, exactement, nous le saurons. Et tout de suite, David Castello-Lopez va nous expliquer les origines du graphique en camembert. Oui. Parce qu'il y a vraiment eu un avant et un après.
Voilà, oui, complètement.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils font partie de notre quotidien, les graphiques en camembert. Mais une seule personne au monde a eu l'idée d'interroger l'origine de ces graphiques, c'est évidemment notre David Castello-Lopez.
Oui. Vous me disiez l'autre jour, Mathieu, David, tu parles quand même beaucoup de toi dans tes chroniques. Hein. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je parle beaucoup de moi. Mais est-ce que c'est de ma faute si j'ai une personnalité aussi riche? Est-ce que c'est de ma faute si j'ai des compétences multiples? Est-ce que c'est de ma faute si j'ai une virilité douce qui provoque le désir sans effrayer? Hein? Bah non.
Et une modestie qui ne craint personne.
Voilà, voilà. Bon, c'est quoi le rapport avec les graphiques en camembert? Eh bien, le rapport, c'est que je vais encore une fois vous parler de moi pour vous dire que j'ai été très brièvement spécialiste des graphiques en camembert et plus généralement des graphiques tout court. Puisqu'il y a 12 ans, je me suis passionné pour le journalisme de données, le data journalisme, qui est un journalisme qui met en forme des bases de données pour faire apparaître des faits. Et j'ai notamment réalisé avec un camarade pour le journal Le Monde une carte interactive du chômage en France qui a marqué les esprits d'une petite demi-douzaine de personnes, dont moi. Mais quand même, c'était un moment important de mon existence. Tout ça pour dire que grâce à ça, je sais depuis quand ça existe, les graphiques en camembert. Bon. Déjà, rappelons que ce que c'est qu'un graphique en camembert.
Un camembert aussi,
Un graphique en camembert, c'est un graphique qui se sert d'un disque pour représenter les proportions de quelque chose par rapport à un ensemble. J'ai un exemple sous la main que j'ai réalisé pour l'émission et qui montre la proportion du personnel d'antenne de Historiquement Vôtre qui a la nationalité portugaise. Vous voyez? Et ce graphique fait apparaître visuellement une vérité dont on n'avait pas du tout conscience, c'est que seulement 20% du personnel d'antenne de Historiquement Vôtre est portugais. Avouez que c'est peu.
Mais hein. Ça va monter. Avec
ça va
Stéphane,
peut-être monter. Hein, faudrait
Stéphane
bosser.
Aime beaucoup le Portugal quand même. Hein.
Faudrait bosser sur la question et peut-être que vous pouvez m'aider effectivement, Stéphane. Bon, alors à votre avis, de quand ça date les graphiques en camembert? Comme ça, petite devinette, essayez.
C'est
les
pas
années
19e.
80.
Ah non,
c'est...
Ah oui, d'accord.
Années
oui,
moi, 90. Je...
Non. C'est les années 80.
Mais vous êtes vraiment en dehors des clous, mais à un siècle, à 180 ans près. Quoi.
Ah, j'ai commencé par dire, c'est pas le 19e.
C'est totalement le 19e, c'est 1801. Mais... La première personne qui a fait un graphique en camembert, c'était en 1801. Comment?
Un fromager.
Et il a été réalisé, ce graphique, par un monsieur écossais qui s'appelait William Playfair. William, c'est vraiment un de ces personnages dont on a un peu l'impression qu'ils sont des mash-up de différentes personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il a commencé sa carrière comme assistant ingénieur dans une entreprise de locomotives. Puis il est devenu agent secret de l'Angleterre au moment de la Révolution française.
Quelle vie.
C'est lui notamment qui, au milieu des années 1790, a convaincu le gouvernement anglais d'imprimer des faux assignats. Les assignats, c'était la monnaie papier que le gouvernement français avait mis en place, entre autres, pour payer ses guerres avec l'Angleterre. Et donc, s'il y a beaucoup d'assignats, leur valeur baisse, ils commencent à valoir plus rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en partie grâce à William. Donc William, il a été ingénieur en locomotive, agent secret... Et par ailleurs, il a révolutionné l'infographie. Vous voyez, trois choses qui n'ont vraiment rien à voir les unes avec les autres. Avant lui, les infographies, c'était un peu méprisé par les savants. C'était une façon vulgaire de convaincre. C'est la vraie façon, c'est la rhétorique, le verbe. On parle, on donne des arguments, et là, les gens, ils disent « Ah, c'est super ». Éventuellement, peut-être un petit tableau Excel avec des chiffres sur le côté, mais c'est tout. Mais le truc, c'est que ces gens-là, ils n'avaient pas non plus compris que quand vous avez un tableau avec plein de données dedans, eh bien, les informations qu'il contient apparaissent beaucoup plus clairement quand on les présente sous la forme de graphiques. Et c'est William qui a eu cette idée-là de les transformer en graphiques. Et il a publié des ouvrages où il comparait les caractéristiques des nations avec des infographies. C'est lui qui, en 1786, a inventé les histogrammes et les graphiques linéaires.
qui sont en gros les deux autres grandes catégories de graphiques très connues. Et en 1801, il a publié le premier camembert de l'histoire du monde, qui représentait, bon, c'est un petit peu précis, hein, les proportions des possessions de l'Empire ottoman par continent avant 1789. C'est-à-dire genre 60% de l'Empire ottoman c'était en Asie, 25% en Europe, 15% en Afrique, etc. Et donc c'était le premier graphique en camembert de l'histoire du monde. C'est ça. Et ça a été repris petit à petit par tout le monde jusqu'à devenir aujourd'hui un incontournable d'Excel qu'on a tous, peut-être pas tous, utilisé au moins une fois. Mais aujourd'hui, le graphique en camembert est très critiqué. Il y a plusieurs spécialistes de l'infographie qui disent que c'est vraiment le graphique le plus nul de tous les graphiques et qu'il faut jamais l'utiliser. Et c'est dur de pas être un petit peu d'accord avec eux. Pourquoi? Eh bien, entre autres, parce qu'un graphique en camembert, ça fait pas clairement apparaître le classement des proportions les unes par rapport aux autres.
Quand même, on s'en rend compte, justement.
Mais un petit peu, mais, oui. Ok. Mais si les différences sont pas très grandes, vous êtes dans la merde, vous êtes dans la merde. Alors qu'un graphique en barre, ça le fait beaucoup mieux apparaître puisque vous pouvez les classer de la plus grande, à la plus petite. Dans tous les cas, moi, je voudrais dire aujourd'hui merci à William Playfair qui a quand même, qui m'a permis déjà d'avoir un petit travail, une petite douzaine d'années. Et en plus, qui fait que maintenant on a des phénomènes qui apparaissent vraiment beaucoup plus clairement grâce à lui.
Eh bien merci en tout cas David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site évidemment europe1.fr. Maintenant on passe à table. Ouais. Olivier, vous nous parlez du woke aujourd'hui.
Et David Cassel-Lopez qui est un génie me dit juste pendant la petite coupure, est-ce qu'il existe ou on devrait inventer le terme woke comme il existe
pas
le terme snacké, poilé, etc. Bah, à ma connaissance ça n'existe pas, mais on va l'inventer, on va le déposer David, et puis on pourra dire qu'on va woke.
On va woke des trucs.
Voilà, dans un instant. Non, on va
woke. C'est passé d'aperçu, mais il faudrait s'y attarder un petit peu.
Non, non, pas du tout. Ne nous attendons pas et on tombe vite dans le vif du sujet.
Voilà, donc pour woke, il faut un woke. Et le woke, c'est un ustensile de cuisine qu'on a découvert, nous, assez tardivement, finalement, ici en Europe, mais qui existe depuis plus de 2000 ans en Asie et en Chine, puisque ce sont les Chinois, dans la région de Canton, apparemment, qui auraient inventé cet ustensile, puisque d'ailleurs, woke signifie en cantonais chaudron. Et les premiers woke, dont on a retrouvé des traces d'ailleurs dans des sépultures, figurez-vous.
Dans des sépultures, mais pourquoi faire ?
Oui, parce qu'ils adoraient leur wok, alors ils se faisaient enterrer avec leur wok. Si, visiblement, c'était un ustensile très important.
Ils ne voulaient pas que la belle-fille, récupère le wok.
Alors, à l'origine, il était fait en poterie. C'est plus tard qu'on l'a fait en fonte et qu'il était martelé, notamment par le forgeron du village. Sa famille avait son wok, qui était un récipient de cuisine un peu universel, équipé de deux poignées. Et l'intérêt du wok, en dehors du fait que, comme dirait David Castello-Lopez, il est cool, c'est qu'il est surtout sacrément efficace. Et derrière cette forme, en fait, on peut trouver de nombreux intérêts. Alors, tout d'abord, vous savez que le fond est tout petit. Alors, on fait maintenant des woks avec un fond plat, de manière à ce qu'il puisse tenir sur nos appareils de cuisson.
Pour pas qu'on ait à le tenir avec une main.
Voilà, mais normalement, le vrai wok est arrondi. Et l'intérêt, c'est que, en fait, il ne nécessite pas beaucoup de chaleur pour un rendu maximum. Parce que vous avez une petite source de chaleur en dessous qui va donc chauffer très fortement le dessous qui va permettre aux aliments de sauter, et puis la chaleur va se répartir sur le haut, et cette chaleur, elle, va permettre de cuire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps remuer les aliments dans le wok, parce que vous passez de très chaud à moins chaud, et donc vous saisissez, vous cuisez en même temps, et ça permet aussi d'utiliser très peu de matière grasse, c'est une cuisson qui est très diététique, c'est qu'à peine quelques petites cuillères d'huile, vous enrobez un maximum d'aliments, et l'huile redescend le long des parois et retourne vers le fond. Donc c'est vraiment très intéressant d'un point de vue de la cuisine. Et je vous propose de faire un wok de légumes. Mm-hmm. Alors pour ça, toute une série de légumes qu'on trouve plutôt facilement, hein, des poivrons que vous allez émincer, des carottes que vous allez râper ou tailler en petits bâtonnets, des haricots verts, il y en a en ce moment, pourquoi pas rajouter des petits pois, des pousses de soja, c'est pour le petit clin d'œil asiatique, et puis parce que c'est très bon, vous rajoutez un oignon, et alors il vous faut un peu de sauce soja, un peu d'huile de sésame, l'huile de sésame qui je trouve donne un petit goût assez intéressant, et puis ce petit marqueur un peu asiatique, du gingembre haché, un peu d'épices asiatiques comme du
la
curry,
coriandre, on peut
de la coriandre. Évidemment, et moi je rajoute juste une petite cuillère à café de miel pour enrober, tout ça. Et alors, c'est très simple. Faites chauffer votre wok. Vous mettez, évidemment, l'huile de sésame dans le fond et puis les légumes, les uns après les autres, et vous les faites sauter en les remuant régulièrement. Quand vous trouvez que la texture des légumes est intéressante, vous rajoutez votre épice, le gingembre haché, vous arrosez avec un petit peu de sauce soja, la cuillère de miel, la coriandre tout à la fin pour qu'elle juste elle chauffe mais qu'elle ne cuise pas. Et puis vous servez ça, vos légumes croquants. Et franchement, c'est facile, c'est rapide et c'est délicieux. Et c'est une bonne nouvelle pour votre sœur à qui vous aviez offert un wok, mon cher David, en 2006, qui ne s'en était jamais servi. Et bien grâce à moi aujourd'hui, peut-être,
elle n'a plus d'excuses.
Elle va le sortir du placard.
Diane,
je
serais ravi
qu'elle m'envoie une photo du plat.
Mais tu veux pas son 06 aussi? Attention, Olivier.
D'abord la photo de Diane.
Envoyez une photo du wok.
Bon, ça dérape complètement cette chronique. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr, le magnifique site europe1.fr. Donc, vous nous apportez le wok, David nous apporte le camembert, et l'important c'est que vous agissiez de concert. Ou de concert, mais d'où vient cette expression, Stéphane ?
C'est dingue. Oui, c'est une expression qu'on emploie pour dire, par exemple, qu'on agit ensemble, on agit de façon concertée. On utilise cette expression « agir de conserve ». Bon, pour le même prix, c'est-à-dire gratuitement, je vous propose de répondre aussi à la deuxième question. Pourquoi dit-on aussi « agir de concert » ?
Alors,
ce qui se comprend, parce que...
Il y a les deux expressions qui existent donc. Dans les deux cas, vous l'avez dit, c'est « agir en se coordonnant », de concert, de conserve. On va parler musique et boîte de conserve ou pas du tout ?
Eh bien, malheureusement, cher Mathieu Noël, dans les deux cas, je suis bien obligé de vous répondre par la négative. Mmh. Agir de concert, débarrassons-nous tout de suite de cette formule, car c'est la plus simple, c'est agir en concertation. Mmh. Concertation, concert. L'analogie tombe sous le sens. Mmh. En revanche, quand on utilise l'expression de conserve, ça n'a rien à voir. En tout cas, dans l'origine, parce que la signification est la même. Quand on dit de conserve, on fait référence non pas aux boîtes de conserve, mais au langage maritime. Au XVIe siècle, quand deux bateaux naviguaient en se suivant, soit parce que l'un escortait l'autre pour se protéger, soit parce que l'un était prisonnier de l'autre, ils prenaient la même trajectoire et voguaient donc de conserve. Par extension, la formule aussi était utilisée quand on naviguait à vue et sans les cartes. Aujourd'hui, de concert et de conserve sont moins utilisés. On dit en anglais « hand in hand », main dans la main, ou « soulmates » en âme sœur.
Soulmates, peut-être.
Soulmates.
Parce que soulmates...
Soulmates.
Soulmates, j'ai cru que vous étiez parti.
Sur la boisson argentine.
Vous étiez parti sur, voilà, exactement, une boisson argentine ou une tentative.
J'aimerais bien en portugais qu'on dit « soulmates ».
Soulmates.
Alors, « soulmates ».
Soulmates, yes.
J'ai jamais utilisé ce mot avant ce jour. En âme sœur, et toujours en anglais, the hand in glove, la main dans le gant, pas forcément pratique pour conduire un bateau. Bref, l'important c'est de se soutenir, d'être là l'un pour l'autre, en amitié comme en amour d'ailleurs. Alors, n'oublions pas ce mot de l'écrivain, c'est toi Paul Valéry, l'amour ça consiste à être bête ensemble. Mm-hmm. Cela dit, c'est mis ensemble en étant intelligent, ça doit pouvoir se tenter. Bon, ça c'est moi qui rajoute.
Oui, c'est pas Valéry ça, hein. Ça c'est vous.
Non, c'est François Valéry.
C'est votre autre référence. Historiquement votre spécial Zonzon, c'est terminé. Oui, les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Vite Stéphane, dites-nous lequel de nos personnages vous a le plus ému ? Jean Genet, Albertine Sarrazin.
Ah, moi, ça m'a ému.
Bah, surtout que c'est la seule que je connaissais pas
bien. Ça terrible, terrible.
Oui, alors,
terrible.
Écoutez-nous en podcast, effectivement, une femme qui a connu la prison, qui s'est découvert un talent d'écrivain.
Tout ça pour mourir par la faute d'un anesthésiste.
Un anesthésiste nul, on peut le dire. C'est terrible, c'est terrible, c'était très triste.
Heureusement, c'est plus le cas aujourd'hui.
Ça n'arrive plus. Demain, je tiens à le préciser, c'est vous, Stéphane, et vous seul qui avez trouvé le thème de l'émission.
Bah, comme tous les jours, Mathieu, moi, j'assume demain, ils ont la patate. On réunit le pharmacien et agronome Antoine Parmentier, dont le nom reste à jamais associé à la pomme de terre dont il a fait la promotion dans tout le royaume. D'ailleurs, ne dit-on pas un hachis Parmentier. Le forain Frédéric Rieger dit Monsieur Fritz, ça tombe bien, c'est lui qui a popularisé les frites. Et aussi, ils ont la patate.
Ah, aussi, ils ont la patate, ils en ont même 100.
100 patates !
Je vous dresse le portrait des inconnus.
Ah oui, une émission aux petits oignons en perspective. Bon, à demain, Mathieu. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.